me souviens de vous et d'autrefois, des fils barbelés et des prisonniers du pays aux horreurs où l'on brûla vos frères et vos sœurs. Parfois vos crimes hantés, j'ai mal, me rappelant l'infernal.
Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Et puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester.
Le pasteur allemand, Martin Niemöller, a survécu au camp de concentration nazi. Ce sermon, il l'a prononcé devant une communauté protestante à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Charles Zelti avait 15 ans lorsqu'il a rejoint un groupe de résistants communistes juifs en août 1942 à Lyon. Arrêté le 7 mars 1944, après avoir transité par Drancy, il arrive avec le convoi numéro 70 à Auschwitz.
Il sera libéré à Bergen-Belsen en avril 1945. Il n'a cessé depuis de témoigner pour expliquer comment ce cauchemar collectif a été rendu possible et ce qu'il a été. Quand il reprend les mots du pasteur Niemöller, c'est bien pour pousser à la vigilance permanente, pour crier, plus jamais ça. Mais le cri ne suffit pas, il faut expliquer, faire comprendre.
C'est ce qu'il a fait avec nous à Auschwitz, par une belle et douce journée de printemps, d'un bleu limpide, où entre ses commentaires, ceux d'Alban Perrin venu du mémorial de la Shoah, ceux de Teresa, notre guide polonaise, il n'y avait place que pour de lourds silences, perturbés par le léger gazouillis des oiseaux. Et pourtant...
Les nazis ont déporté plus de 200 000 enfants. Pour la plupart, c'était des enfants juifs, mais il y avait aussi des enfants polonais, russes, biélorusses et des enfants tziganes. À la libération, les Russes ont trouvé dans le camp 400 enfants et 40 bébés. Mais quand je dis enfants, je pense à tous ceux qui avaient moins de 14 ans.
Pour les déportés qui avaient été sélectionnés pour le travail et la vie dans le camp, ils étaient dès leur arrivée soumis à des procédures qui visaient à leur retirer leur personnalité et à créer un climat de tension et de terreur.
Seulement les Juifs subissaient la sélection sur le quai de déchargement au moment de l'arrivée dans le camp. Seulement les Juifs. Donc les prisonniers d'autres nationalités, par exemple les prisonniers polonais, russes, biélorusses, les Français non-juifs, les Autrichiens, les Allemands, ils ne subissaient pas la sélection, mais après l'arrivée dans le camp, ils étaient admis dans le camp. Ils subissaient la procédure de l'enregistrement dans le camp avec ce groupe de Juifs qui, après la sélection, étaient jugés aptes au travail et dirigés dans le camp. Et durant l'existence du camp d'Auschwitz, différents lieux dans ce camp servaient à enregistrer les nouveaux arrivants. Mais en décembre 1943, les nazis ont fini la construction de ces bâtiments et c'était la zone centrale. On peut dire, je ne sais pas, la salle de douche centrale. Et où on a enregistré tous les nouveaux arrivants. Donc, au début, les nouveaux arrivants venaient ici. Ils devaient déposer leurs petits bagages, les gros bagages, restaient sur le quai. Mais souvent, ils avaient des petites valises, des sacs à dos, les sacs à la main. Donc, ici, ils devaient se déshabiller, laisser leurs petits bagages. Et ici, les membres du Commando Canada qui s'occupaient de leurs bagages faisaient le premier tri. Tout nus, ils restaient longtemps. Et au bout du couloir, on les rasait. Ils étaient rasés sur tout le corps. Vous savez, parfois, je me demande, parce que pour nous, les femmes, par exemple, les cheveux, c'est le signe de beauté, n'est-ce pas? Et en quelques instants, toutes les femmes devenaient les chauves. Donc après, les filles ne reconnaissaient pas leur mère, ou bien leur mère ne reconnaissait pas leur fille. Et ensuite, après le rasage du corps, il y avait un examen rapide médical. Et puis, ils entraient dans la salle de douche. Il faut dire aujourd'hui que les nouveaux arrivants attendaient la douche. Souvent, après un long voyage, c'était la première occasion de satisfaire la soif. Mais je dois vous dire que même pendant la douche, ils étaient chicanés. Comment? L'eau qui coulait n'était jamais normale. Ou bien elle était froide, glacée, donc il grêlait l'eau de froid. Ou au contraire, elle brûlait. Donc, ils fuyaient de cette salle de douche, mais de nouveau, ils étaient poussés brutalement. Ils recevaient des coups de pied, des coups de bâton. Et ensuite, ils entraient dans la salle, tout mouillés. Ils attendaient, il n'y avait pas de serviettes. Ils attendaient la distribution des vêtements. Pendant l'enregistrement, les nouveaux arrivants étaient aussi, ça dépend de la période, mais étaient aussi photographiés sous trois poses différentes. Les prisonniers perdaient leur identité, ils devenaient les numéros. On attribuait à chaque prisonnier son numéro qui était tatoué sur l'avant-bras gauche.
Était rasé de la tête aux pieds. Et pour la pratique, ceux qui nous rasaient, c'était des portés déjà, c'était dans leur fonction. Ils avaient quelques tabourets et il fallait monter sur ces tabourets pour écarter les fesses. Parce que tous les poils y passaient, devant, derrière, en haut, en bas, sur les mollets. Et alors, après, il y avait le tatouage, nous étions tous tatoués. Mon numéro, c'est 66 Firunder Firunzexich, hein, et ça, au moins, en répétant ça, j'évitais de recevoir des coups sur la tête, hein, avec le goumi. Et si vous voulez que je vous le traduise, je répète, c'est le 176 464. Je le traduis après, hein. La première chose, vous voyez, je le connais encore aujourd'hui par cœur, et je ne sais toujours pas l'allemand. On nous avait retiré tous nos vêtements, donc plus rien sur nous ne nous appartenait, et nous avions ce numéro. À partir de ce moment, nous n'étions plus un homme, nous n'avions plus de nom, hein, on n'a jamais été appelé par notre nom, on était toujours appelé par notre numéro. D'ailleurs, en général, quand ils aboyaient après nous, les capots ou les SS, on était des Stück. Stück signifie pièce, encore un mot allemand que je connais quand même. J'étais un Stück comme les autres. J'étais le Stück Unter 76, Unter 64. On avait une équipe de solidarité. Entre nous, on s'appelait quand même par nos noms. Hein, et on essayait le maximum, parce qu'eux essayaient qu'on devienne le plus bas possible. Ils essayaient de nous abaisser au plus bas. Et nous, on essayait de nous entretenir le mieux possible pour rester des humains.
Vêtements, les prisonniers portaient les triangles de différentes couleurs et chaque couleur désignait une autre catégorie. Par exemple, les prisonniers politiques portaient le triangle rouge, les criminels de droit commun, vert, et les juifs portaient l'étoile qui se composait de deux triangles renversés de deux couleurs. La couleur jaune désignait le juif, une autre couleur, la catégorie. Donc, par exemple, l'étoile jaune-rouge, c'était les prisonniers politiques juifs. Les témoins de Jéhovah portaient le triangle violet, les homosexuels roses. Donc, comme je dis, chaque couleur désignait une autre catégorie.
Parler de conditions de vie serait inapproprié, c'est plutôt de conditions de survie qu'il faudrait parler. Charles et Teresa, de lieu en lieu, témoignent, expliquent.
Sur ces lits en bois superposés à trois niveaux, dormaient les prisonniers. Selon le règlement du camp, 5 personnes sur un niveau, mais les baraques étaient surpeuplées et les déportés, les prisonniers étaient plus nombreux, parfois 7 personnes, 8 personnes sur un niveau. Les prisonniers dormaient sur des matelas qui étaient remplis de chez nous, on dit copeaux de bois. Quand on scie le bois, il y a des sures. Et pour se couvrir, ils avaient des couvertures, mais souvent une seule couverture pour toutes les personnes qui restaient sur un niveau. Et chaque baraque possédait son système de chauffage. C'était deux poêles à deux extrémités de la baraque. Plus souvent, ces deux poêles étaient froids parce qu'il n'y avait pas de quoi les alimenter. Pas de charbon, pas de bois. le terrain du village, c'était le terrain marécageux. L'eau était non potable ici, mais les prisonniers la buvaient. Ils avaient soif et c'était souvent la seule possibilité de satisfaire la soif. Et vous savez, quand il y a le surpeuplement, on ne peut pas entretenir l'hygiène personnelle. On est mal nourri, on boit de l'eau non potable. Ça provoque toujours les épidémies, surtout celles de typhus.
Il y a 3 semaines, j'étais encore chez ma gastro. On me soigne. Et quand je dis, mais alors, elle dit, vous savez, avec tout ce que vous avez subi, c'est pas étonnant. Et je peux plus faire grand-chose maintenant. Tous ces trucs-là, ben, on le paye, enfin, on l'a payé. En gros, on l'a payé toute notre vie. On a été détraqué, etc. Ce qu'on avait également, on avait la dysenterie. Sur cette photo, j'ai toute l'épaule blanche en rapport au restant du corps. L'épaule blanche, c'est la peau qui est revenue. Et tout ce qui n'est pas blanc, là, sur l'épaule, qui est encore brun, ben, c'est les excréments. Parce que, surtout à la fin, j'étais sur une paillasse et j'étais dans ma dysenterie. Ce problème des toilettes a été un problème très important. Malheureusement, quand c'était le déclin. Hein. Vous savez, tel que je vous ai montré la photo, je faisais partie de ce qu'on appelait les musulmanes. C'est-à-dire le camp aurait vécu plus longtemps, j'avais le droit au four crématoire, enfin à la chambre à gaz, au four crématoire, j'étais éliminé. Hein? Bon, la libération est arrivée, donc je m'en suis sorti. Et c'était ça. Hein? Alors ces choses-là, vous voyez, alors des fois on nous dit, mais qu'est-ce que vous ressentez? Ben, c'est ça qu'on ressent, c'est que de temps en temps on vous explique des choses, on ne va pas toujours jusqu'au bout. Et dans nos têtes, il y a des choses comme ça qui reviennent à nos mémoires. C'est pas toujours facile à les sortir et à les dire.
Les nazis utilisaient les prisonniers contre les prisonniers. Et les prisonniers du camp étaient d'abord surveillés par les autres prisonniers, qui n'étaient pas choisis, élus par eux, mais désignés par la direction du camp. Le groupe était appelé prisonniers fonctionnels. Parmi les prisonniers fonctionnels les plus connus aujourd'hui, c'était le capot. Le capot, c'était les prisonniers du camp qui surveillaient les autres prisonniers pendant le travail. Mais il y avait aussi le responsable de la baraque, au camp mère, le responsable du bloc, de la salle, ils avaient leurs adjoints. Et leur groupe était assez important dans le camp. Ils ne subissaient pas le même régime que les autres. Ils étaient privilégiés, ils mangeaient mieux et ils étaient logés plus confortablement. Chaque matin et chaque soir, les nazis, les autorités du camp contrôlaient l'effectif du camp. La place d'appel n'était pas très grande. Par exemple, l'effectif le plus élevé ici, c'était même 25 000 prisonniers en même temps. Donc les prisonniers restaient debout entre les blocs, devant les blocs. Ils restaient debout en rang de 10 pour qu'on puisse les compter vite et facilement. Mais les survivants disent, même si les autorités du camp pouvaient nous compter vite, elles aimaient prolonger cette procédure. Surtout en hiver, les survivants se souviennent des appels qui duraient 19 heures. Pendant 19 heures, ils ne pouvaient pas bouger, s'éloigner du rang, aller aux toilettes, ils tombaient de fatigue. Bien sûr, l'appel pendant 19 heures, ce n'était pas pour les compter, c'était pour les maltraiter, n'est-ce pas? Pendant les appels, les nazis procédaient aux exécutions collectives. Et par exemple, en juillet 1943, sur cette potence, les nazis ont pendu 12 prisonniers qui ont été accusés d'abord d'avoir contacté la population civile et d'avoir aidé leurs 3 collègues à s'évader du camp. Pourquoi tout ça pendant l'appel? Pour dissuader les autres d'entreprendre une éventuelle évasion.
Le cynisme était permanent dans les relations des nazis avec les prisonniers. Ici, un orchestre, là du sport.
En quoi consistait ce sport? Par exemple, les prisonniers devaient marcher toute la journée, ou bien ils devaient courir toute la journée. Ils roulaient sur les coudes et sur les extrémités de leurs pieds, ou bien ils devaient se rouler sur le sol, qui était à l'époque, mais aujourd'hui, couvert du gravier et de petits morceaux de briques. Tout ça indépendamment de l'âge, de leur état de santé. Celui qui ne pouvait continuer était ou bien fusillé ou bien battu très très fort. L'orchestre du camp était chargé d'accompagner en musique le matin les sorties des prisonniers qui sortaient du camp pour travailler dehors. Où travaillaient les prisonniers? Un peu partout, à la construction des routes, des ponts, des usines, à la construction d'un nouveau camp, Auschwitz II, Birkenau. Ils travaillaient aussi dans des exploitations agricoles qui étaient autour du camp. À vrai dire, ils devaient produire tout ce qu'ils mangeaient dans le camp. Donc le matin, l'orchestre du camp accompagnait leur sortie et le soir, leur retour. Et dans les témoignages des survivants, on peut lire que sur tous les retours des prisonniers, le soir, dans le camp, c'était des spectacles cruels, atroces. Pourquoi? Il n'était pas rare que ces équipes, appelées ici les commandos, revenaient le soir avec la moitié de leur effectif. Au cours de la journée, les prisonniers décédaient à la suite du travail exténuant ou bien ils étaient tués par les gardiens qui les surveillaient. Mais les autres prisonniers devaient ramener le corps dans le camp. Ils les traînaient sur des chariots, ils les portaient sur leurs épaules et ils passaient devant l'orchestre qui jouait des airs préférés des Allemands, par exemple des marches allemandes. Donc c'était des spectacles cruels, si on peut utiliser le mot spectacle dans ce contexte. Et je pense que c'est clair pour vous que l'orchestre du camp s'est composé des prisonniers.
Certaines parties du camp étaient particulières, c'était le cas du camp dit familial.
Les familles juives de Térézine n'étaient pas séparées, ils vivaient dans ce secteur ensemble. Même, ça dépend du transport, mais certains groupes n'étaient pas rasés, n'étaient pas tatoués, ni portaient leurs vêtements civils. Et je dois vous dire que souvent les autres prisonniers qui travaillaient autour, qui s'approchaient du barbelé et leur disaient « Écoutez, vous allez mourir dans la chambre à gaz. » Même en restant ici, ce juif de Thérèse, il ne voulait pas croire. Il disait « Mais regardez, nous ne sommes pas contraints à travailler comme vous. Nous ne sommes pas rasés comme vous. Nous ne portons pas les mêmes vêtements que vous. » Donc même ici, au camp de Birkenau, en voyant la fumée des cheminées, en sentant l'odeur, il ne voulait pas croire. Il y a une sentence latine « Dum animus est » Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Donc, même ici, les Juifs de Térézine espéraient.
Un pape de la Gouttière, dans la ruelle au matelot, où n'entrerait pas la lumière, il y a un vilain caboulot, la figure dressée pâle. Une servante aux yeux bleus rêve aux plus belles escales et à des ciels merveilleux. Chaque sifflet de bateau lui dit on attend tes veines, mais dans un coin phono chante ta vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vos désirs, vos rêves seront échos et un soir avant que votre vie s'achève. Le bonheur viendra vous voir, il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il entrera beau comme un ange, des cheveux comme le mien. Son regard était étrange, plus bleu que le bleu du ciel. Il appela la servante et lui dit « Je te cherchais ». Elle répondit tremblante « Il y a longtemps que j'attendais ». Il la serrait dans ses bras « Quand je serai capitaine ». Mais le vieux dit tout bas. vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nos désirs, vos rêves feront éclore un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra vous voir. Il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Impasse de la Gouttière, dans la ruelle au matelot. Où n'entre pas la lumière, il y a un vilain caboulot. Elle attend Pierre et Hautaine, elle attend depuis 20 ans. Elle attend son capitaine, et son regard est confiant. Chaque sifflet de bateau lui dit on attend tes veines, mais elle écoute le phono. Raclant sa vieille rengaine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est, il y a de l'est, il y a de l'est. Vos désirs, vos rêves seront exaucés un soir. Avant que votre vie s'achève, le bonheur viendra pour moi. Il faut l'attendre sans trêve. Chassez les papillons noirs. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'est. Tant qu'il y a de la vie.
Les détenus étaient soumis en permanence à l'arbitraire. Ils devaient subir toute forme de vexation, d'humiliation, de pression, et savaient que leur vie ne tenait qu'à un fil. Et encore, ne savaient-ils pas où était ce fil, et peut-être n'était-ce pas le même selon les jours et les circonstances. Les expérimentations pseudo-médicales menées par Mengele, l'application de la responsabilité collective, les condamnations et les exécutions sous toutes les formes de torture et de mort pouvaient être au rendez-vous de tout instant.
Chaque activité dans le camp devait se dérouler sur ordre. Le matin, un groupe de prisonniers entrait ici, s'asseyait pour satisfaire les besoins naturels. Après quelques instants, ce groupe sortait et un autre groupe arrivait. Pour nous, c'est inimaginable aujourd'hui. Comment on peut satisfaire ces besoins naturels dans la foule et sur ordre? Une fois, quand j'étais la piste avec une ancienne déportée, je lui ai dit « Madame, si j'étais à votre place, je ne sais pas, mais je ne dois pas. Je me suiciderai le deuxième jour. Je n'accepterai pas ces conditions. » Elle m'a dit « Non, tu n'as pas raison. » On est choqué le premier jour, le deuxième peut-être, mais le troisième, on s'adapte. On ne s'habitue pas, mais on s'adapte, on veut survivre. Donc on accepte ces conditions. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? À cause de la diarrhée de faim, certains prisonniers n'arrivaient pas à satisfaire leurs besoins directement dans ces trous. Il fallait rendre propre tout l'endroit, mais il n'y avait pas de papier de toilette. Elle m'a dit, tu sais, avec ma main, avec des petits bouts de tissu, je nettoie et j'essuie. Sinon, je t'ai battu. Pour éviter la punition, elle faisait comme ça, mais c'est une grande humiliation pour elle et pour les autres.
On avait le costume et on avait le numéro sur la poitrine et le numéro sur la cuisse. On avait deux endroits où il y avait le numéro sur un tissu en toile, avec notre numéro. Et il y avait l'appel. Et on appelle « Unter 76 », je suis « Unter 76 », comme ça, je fais ça, « Jawohl ». Voilà. Il a fallu que j'apprenne ça en une demi-heure. Alors j'ai eu une chance énorme. J'avais avec un copain avec moi, un Mosellan, un gars de Nancy, qui savait l'allemand et qui m'avait prévenu et qui m'avait appris ça. Je ne savais pas parler, je ne savais pas l'allemand, je ne savais rien. Mais il me l'a mis dans la tête. Dès que j'ai entendu, la veule, j'étais là. Hein? Bon, pas de problème. Mais le copain qui était avec moi, et qui lui n'a rien compris, on l'a cherché, le capot l'a cherché. Et quand il l'a trouvé, hein, il avait à la main son goumi. La matraque qu'il avait, on appelait ça le goumi. C'était en général un tube de caoutchouc rempli de sable, bourré de sable. Hein? Et il l'a tué sous nos yeux pour qu'il apprenne. Nos premiers tués, en rentrant au camp, avant on avait eu des morts dans le train, hein, mais les premiers tués après, ça a été au camp de quarantaine, donc, et moi, à Bouna, pour la discipline. On apprenait Mutsen up, Mutsen off, Mutsen up, Mutsen off, et on nous a expliqué que dès qu'on croisait un capot, la Gehaltester, le Schreiber, tous ceux qui avaient un brassard, si vous voulez, fallait les saluer, et bien entendu, tous les SS, du plus simple au plus grand. Dès qu'on croisait, il fallait saluer. Ça, c'est... Donc il a fallu ça, apprendre ça très rapidement.
Un autre médecin allemand qui s'appelait Klauberg faisait des expériences pseudo-médicales, mais sur la stérilisation des femmes et des hommes. Lui, il voulait élaborer une autre méthode, différente de celle de Mengele. Il voulait élaborer une méthode grâce à laquelle les nazis pourraient stériliser de façon massive les races inférieures, comme celles des juifs, des slaves, des tziganes. Les nazis voulaient exploiter la main-d'œuvre des races inférieures, mais ils voulaient influer aussi sur le nombre de leurs naissances. Pour que ce programme de l'extermination soit efficace et réussi, il fallait obtenir de la part des prisonniers une obéissance absolue. C'est pourquoi dans le camp, les nazis ont créé tout un système de punitions. Les plus fréquentes, c'était les bastonnades. Un prisonnier recevait 25 ou 50 coups de bâton. Il devait compter à voix haute en allemand. Quand quelqu'un s'est trompé, on recommençait la punition. Mais une torture très raffinée, c'était la peine de poteau. Un prisonnier était suspendu par ses mains tordues sur le dos. Il était suspendu de façon qu'il ne puisse pas toucher le sol par ses pieds. C'était pas la peine de mort, mais quand il était suspendu plusieurs heures comme ça, après, il ne pouvait pas travailler. Les tendons de ses muscles étaient rompus. Et quand il ne pouvait pas travailler, il était inutile pour le camp. Et vous savez déjà, être inutile pour le camp, c'était la mort. Ou bien il était fusillé devant le mur, ou bien gazé dans la chambre à gaz. Mais dans ces papiers, dans ce document, souvent on notait, il refusait de travailler.
Ieri vino lampe al maio, antum malco melech malchaio.
Dans le sous-sol du bloc 11, les nazis incarcéraient les prisonniers du camp dans le cadre des représailles collectives. Par exemple, on a constaté une évasion. Tout de suite, la direction du camp choisit ces 10 autres prisonniers qui étaient condamnés à mourir de faim. Les nazis faisaient des apparences de la justice. Régulièrement, le tribunal venait ici pour juger les prisonniers. Mais croyez-moi, c'était une parodie de jugement. Toutes les quelques minutes, on prononçait la sentence et c'était toujours la peine de mort par fusillade. Quand la sentence était prononcée, les condamnés, hommes, femmes, pas femmes même enfants, devaient se déshabiller et tout nus, descendaient par cet escalier. Les nazis voulaient récupérer même leurs vêtements. Vous savez que les balles déchirent le tissu, le sang tache. Pour éviter tout ça, ils étaient fusillés tout nus, mais c'était une grande humiliation pour eux juste avant la mort. Il n'y avait pas de peloton d'exécution, mais le condamné était maintenu de deux côtés par deux prisonniers fonctionnels, par exemple par deux capots, et on tirait sur la nuque. Pourquoi ? Pour économiser les balles.
Pourtant, tous les survivants ont gardé en mémoire des comportements solidaires ou généreux exceptionnels. Les Polonais sont par exemple attachés à la personnalité du père Kolbe.
Il est mort de faim parce qu'il a remplacé un autre prisonnier polonais, le père de famille, désigné à mourir de faim. Le père Kolbe a dit au SS, moi je vais mourir à sa place. D'abord, les SS étaient stupéfaits, mais comment un prisonnier osait parler? Mais finalement, ils ont donné leur consentement et le père Kolbe a passé dans cette cellule 2 semaines sans boire, sans manger. 2 semaines plus tard, quand le gardien a ouvert la porte, le père Kolbe était encore vivant, mais très très faible. Donc finalement, il a été tué par une injection de phénol dirigée directement dans son cœur. Je pense que nous nous rendons compte que chaque jour, les prisonniers se trouvaient dans le camp, dans les situations d'extrême. Et nous savons très bien que dans les situations d'extrême, les gens se comportent différemment. Souvent, les gens très honnêtes se comportent de façon malhonnête. Je ne sais pas si vous partagez mon opinion, mais l'exemple du père Kolbe, c'est un bon exemple pour dire que malgré ces situations d'extrême, les prisonniers réussissaient ici à garder leur dignité de l'homme. Je dois vous ajouter que le père Colbet, par son sacrifice, a servi à quelque chose. Celui qui a été remplacé par lui a réussi à s'en sortir, il est revenu dans sa famille, il est mort il n'y a pas longtemps, à l'âge de 92 ans.
Dans de telles conditions de survie et de détention, tout acte de résistance ou d'évasion aurait pu apparaître totalement impossible. Quelques déportés sont sortis de la douleur et du désespoir par le suicide. L'immense majorité a affirmé son esprit de résistance dans le simple fait de pouvoir survivre malgré tout. Jour après jour, et enfin une infime minorité a tenté l'évasion. Très difficile et quelques actes collectifs très forts de résistance et de révolte méritent d'être évoqués.
Chaque secteur était séparé de l'autre par le barbelé qui était électrifié, n'est-ce pas ? Les prisonniers dans le camp de Birkenau étaient isolés les uns des autres. Et souvent les survivants disent « Je savais ce qui s'est passé dans mon secteur, dans ma baraque, mais je ne savais pas du tout ce qui s'est passé ailleurs. » C'est pourquoi chaque survivant raconte sa propre histoire, ses propres expériences. Mais au bout de certains temps, parmi les prisonniers, il y en avait ceux qui n'espéraient plus. Ils ne voulaient plus continuer leur vie ici. Ils se suicidaient. Comment ? En se jetant sur le barbelé. Dans le jargon du camp, on disait « aller sur le fil ». S'évader du camp, c'était presque impossible. La tête rasée, le numéro tatoué, les vêtements rayés. Mais il y avait des évasions. Et d'après les documents que nous avons aux archives du musée, je peux vous dire qu'il y avait 800 tentatives d'évasion. 800 prisonniers essayaient de s'évader du camp, mais 140 ont réussi. Ça ne signifie pas que toutes les autres évasions étaient manquées. Tout simplement, souvent, nous ne connaissons pas la suite. Il y avait beaucoup d'évasions spontanées. Les prisonniers travaillaient dehors, dans le champ, n'est-ce pas ? Ils profitaient de l'occasion. Mais qui était, disons, privilégié pour s'évader du camp ? Ainsi, certainement les Polonais, qui connaissaient la langue, n'est-ce pas, un peu la région, qui pouvaient compter sur une aide à l'extérieur. Il y avait aussi des évasions préparées en collaboration avec la résistance de la région. Et ces évasions jouaient leur rôle important pour informer l'opinion publique sur tout ce qui s'est passé ici. Parce que ces fugitifs en liberté préparaient les rapports qui étaient envoyés grâce à la résistance de la région à Londres. Là, il y avait le gouvernement polonais en exil et par Londres aux États-Unis. Donc vraiment, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que personne ne savait ce qui s'est passé ici. Il y avait des messages, des informations transmises à l'extérieur. Je dois vous dire qu'il y avait des évasions spectaculaires. Par exemple, 4 prisonniers se sont évadés du camp déguisés en SS. Les prisonniers travaillaient partout, même là où on nettoyait les uniformes de SS. Ils ont volé 4 uniformes. Les femmes prisonnières qui travaillaient dans l'administration du camp ont volé 4 laissés-passer. Un des fugitifs travaillait dans le camp comme mécanicien, donc il a pris une voiture allemande. C'était très naturel, n'est-ce pas, pour lui. Donc déguisé en SS, en montrant les faux laissés-passer en voiture allemande, ils ont quitté le camp. Mais ces évasions étaient préparées en collaboration avec les résistants. Ils étaient attendus, n'est-ce pas, à l'extérieur par des résistants polonais avec des faux papiers, des vêtements civils. Je dois vous dire qu'il y avait des histoires d'amour ici. Un prisonnier polonais qui s'appelait Edward Galinski est tombé amoureux d'une juive belge qui s'appelait Mala Timetbaum. Mala travaillait dans le camp comme coursière, circulait, bien sûr, escortée entre deux camps, Auschwitz II et Auschwitz I. Et Edward Galinski, lui aussi, il a volé un uniforme allemand, il s'est déguisé, il est allé dans le camp des femmes, il a dit à la surveillante allemande qu'il allait escorter Mala à Auschwitz I, ils ont quitté le camp. Mais leur évasion n'a pas de fin heureuse. C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas la région. Ils erraient pendant plusieurs jours aux alentours et à vrai dire, ils ont été attrapés et de nouveau déportés au camp. Tous les deux ont été tués pendant, lui, pendant l'appel dans le camp d'hommes, elle, pendant l'appel dans le camp des femmes. Mais il y avait même des histoires d'amour ici. Et il faut dire encore une chose. Au début, dans le camp, il y avait la responsabilité collective. Donc, au début, il y avait très peu d'évasion parce que celui qui voulait s'évader du camp savait que 10 autres prisonniers allaient mourir à sa place. Mais en 44, les nazis avaient besoin de main d'œuvre. Ils ont renoncé à la responsabilité collective et à vrai dire, la plupart des évasions a eu lieu en 1944. C'est incroyable pour nous aujourd'hui, mais dès le début du fonctionnement de ce camp, le mouvement de la résistance s'est organisé à l'intérieur du camp. Les prisonniers eux-mêmes voulaient transmettre le message à l'extérieur, dire aux autres ce qui s'est passé ici. Et ils ont fait 3 photos clandestines. Nous pensons que ces photos ont été prises pendant l'extermination de juifs hongrois.
À Auschwitz, le centre, là, les 3 camps, il y avait une unité et il y avait quand même une équipe de résistance, disons, importante. Nous, on avait fait plutôt un groupe de solidarité que résistance, mais dans l'esprit, c'était aussi déjà de la résistance, mais de solidarité. Ici, ils ont été plus loin. Les camarades de Auschwitz avaient la communication avec les partisans qui étaient autour dans les forêts. Les Polonais, ce sont les résistants polonais, les partisans, qui ont envoyé cet appareil avec une pellicule, je ne sais pas s'il y avait 1 ou 2 pellicules, mais il y en avait au moins 1 dans l'appareil, a été transmis. Je pense que le responsable, ou un des grands responsables de cette résistance, était un Polonais, non juif, Cyriankiewicz, qui a été d'ailleurs président du conseil du gouvernement polonais après-guerre dans les années 50. Puisque quand je suis venu la première fois avec d'autres camarades de l'amicale de Auschwitz, de France et d'autres pays, hein, on avait une réunion ici, après il nous a reçus à Varsovie en tant que président du conseil mais en même temps en tant que camarade. Et travaillait notamment avec lui un autre camarade que j'ai eu l'occasion de connaître. Alors lui c'était un juif, c'est Chmielewski. Et cet appareil, quand il est venu dans le sens de la rentrée, avait été donné à Chmielewski qui lui après l'a repassé là. Et après il a refait le chemin de retour à Auschwitz. Il y avait une résistance, comme il y en a une à Buchenwald, hein, qui est bien connue, où il y avait un comité international de résistants qui avait préparé l'insurrection et dans le fond qui ont attendu les Américains à l'arrivée. Hein. Bon, ils se sont battus un petit peu, ça n'a pas été l'insurrection totale, mais ils se sont libérés, il n'y avait plus de SS, où ils ont livré les derniers SS aux Américains. Donc il y avait toujours cet esprit de vouloir se défendre. Voilà, je tenais à signaler ça, hein, et notamment pour Auschwitz que ça existait aussi. Avec des Polonais non-juifs, des Polonais juifs et d'autres nationalités.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne?
Mais les survivants disent, quand on travaille très dur, on ne mange pas ou presque pas, au bout de quelques jours, c'est l'estomac qui dirige les pensées. On ne pense plus se révolter, se battre, on pense quoi faire, comment organiser quelque chose à manger, comment survivre. Et encore une autre chose, une autre raison. Quand on prépare un complot et plusieurs personnes y sont mêlées, il faut observer certains principes de la conspiration, n'est-ce pas? Ici, pour une tranche de pain, les prisonniers dénonçaient. Chaque fois, quand les membres de la résistance voulaient préparer quelque chose, les nazis savaient avant. Mais nous ne pouvons pas dire que les prisonniers ne sont jamais révoltés. Le 7 octobre 1944, les membres du Sonderkommando se sont révoltés. L'effectif du Sonderkommando dépendait toujours du nombre de transports et l'effectif le plus élevé c'était pendant l'extermination des Juifs hongrois. Pendant leur extermination, le Sonderkommando comptait environ 1000 personnes qui travaillaient jour et nuit. Mais en automne 44, les transports ont diminué et la direction du camp a décidé il n'est plus nécessaire d'avoir le nombre si important des membres du Sonderkommando. Et sous prétexte de les transférer dans un sous-camp en Silésie, ils ont été transférés au camp mère, à Auschwitz I. Et là, dans une salle qui servait de désinfection, ils ont été gazés. Mais en automne 44, le crématoire du camp mère ne fonctionnait plus. Donc, leurs corps, de nouveau, ont été transférés ici. Et les autres membres du Sonderkommando ont reconnu le corps de leurs collègues. Ils ont tout compris. Et à l'annonce qu'on prépare un nouveau convoi avec eux, ils ont décidé de se battre même au prix de leur vie. Quatre femmes, quatre juives, prisonnières bien sûr, qui travaillaient dans une usine d'armement pendant quelques semaines apportaient en cachette bien sûr les matériaux explosifs. Et c'était de la poudre de dynamite. Et à partir de ces matériaux, les membres du Sonderkommando ont préparé des grenades. C'était primitif, mais quand même, ils avaient de l'arme. Ils avaient aussi des outils dont ils se servaient, n'est-ce pas, chaque jour dans le crématoire. Et quand le matin, le 7 octobre 44, les nazis sont venus les prendre, ils ont commencé à se battre. Et pendant cette révolte, ils ont partiellement détruit ce crématoire et jusqu'à la libération, il ne fonctionnait plus. Même, ils ont réussi à couper le barbelé, à s'enfuir du camp. Ils se sont barricadés dans une grange à quelques kilomètres d'ici. Mais nous pouvons facilement prévoir le résultat. Poursuivis par des gardiens armés, n'est-ce pas? C'est un massacre. Ce jour-là, les nazis ont tué 400 membres du Sonderkommando. Et bien sûr, la direction du camp a commencé à mener une enquête. Les nazis voulaient savoir comment les matériaux explosifs se sont trouvés dans le camp et ces quatre juifs ont été découvertes. Toutes les quatre ont été pendues. Deux pendant l'appel du matin, deux autres pendant l'appel du soir. Trois semaines avant la libération du camp, donc presque au dernier moment. Mais nous ne pouvons pas dire que les prisonniers du camp ne sont jamais révoltés.
Bien sûr, même si au procès de Nuremberg, les chefs nazis, dont la plupart ne reculeront pas devant l'audace de plaider non coupables, ont été condamnés, il n'empêche que de nombreux criminels nazis réussiront à fuir l'Allemagne et à survivre pendant des dizaines d'années. Certains traqués et repérés seront finalement jugés, comme Eichmann, le responsable de la logistique de la solution finale, qui sera capturé par les services secrets israéliens en Amérique du Sud en 1960. Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, celui qui avait envoyé tant de juifs vers Drancy et a été responsable de la déportation des enfants juifs d'Izieux, en avril 44 et du dernier convoi direct vers Auschwitz, le 11 août 44 avec 650 personnes dont 308 juifs, a été repéré puis extradé en France. Jugé, il est mort en prison en 1991 à 78 ans. C'est lui qui était à Lyon lorsque Charles Zelti a été arrêté puis déporté. Et qu'est-il donc advenu de Rudolf Höss, commandant du camp d'Auschwitz, et de Mengele, le médecin sadique, celui qu'on surnommait l'ange de la mort?
Rudolf Höss, aujourd'hui les historiens disent qu'il était le plus responsable. Il a organisé ce camp, il l'a agrandi. Lui, il a cherché un moyen efficace pour tuer les juifs de façon massive. Il a rempli sa fonction du commandant jusqu'à la fin de l'année 43. Après, probablement d'après Berlin, il a bien travaillé, il a été promu et envoyé à Berlin. Et après la guerre, il s'est caché, il a changé son nom, il s'appelait Franz Lang, mais il a été reconnu et arrêté dans la zone anglaise de l'occupation. Et comme les Alliés, pendant la guerre déjà, ont pris la décision d'extrader tous les criminels de guerre au pays où ils avaient commis leur crime, Rudolf Höss a été extradé en Pologne, il a été jugé par le tribunal national suprême à Varsovie. Son procès a duré un an. C'était pas une vengeance. Il avait un procès, il pouvait se défendre, il y avait des témoins. Mais finalement, après ce procès, il a été condamné à la mort par pendaison. Rudolf Höss a été pendu juste à côté du crématoire et de la première chambre à gaz. Dans le temps de Tzigane, Josef Mengele faisait ses expérimentations. Mengele s'intéressait à toutes les anomalies, aux nains, aux personnes qui avaient chaque œil de différentes couleurs. Mais avant tout, il s'intéressait aux jumeaux. Pourquoi? Mengele voulait élaborer, d'abord il voulait découvrir le secret, comment ça se passe que les jumeaux naissent. Il voulait élaborer une méthode grâce à laquelle la race aryenne pure supérieure épuisés un peu par la guerre, pourraient se multiplier très vite. C'est pourquoi les jugements tziganes subissaient de longs examens très douloureux qui, à vrai dire, ne donnaient rien, aucun fruit, seulement contribuaient à la souffrance et à la mort de ces enfants. Et pourquoi à la mort? Ça arrive rarement que les juments meurent en même temps. Mengele les faisait tuer et puis procéder à la dissection parce qu'il voulait comparer leurs organes intérieurs. Mengele n'a jamais été arrêté après la guerre, jamais jugé, jamais puni. Et personne ne savait où il se trouvait. Mais quand il est mort, on a trouvé son corps sur la plage au Brésil. Probablement, il s'est noyé. Si je me rappelle bien, c'était en 1979. Mais quand on a trouvé son corps, tout le monde l'a su tout de suite. Mengele est mort. Quelle est la conclusion? Que les criminels de guerre étaient vraiment bien, bien protégés pendant de longues années. Même, nous avons des documents d'après lesquels on peut dire que, pas nous les Polonais, mais il y a des documents d'après lesquels on peut dire que Mengele, en restant au Brésil après la guerre, deux fois s'est rendu en Allemagne pour voir sa famille.
La responsabilité des autorités allemandes est évidemment indiscutable, mais on doit se poser une question capitale. A-t-on vraiment découvert l'horreur des camps seulement lorsque les armées alliées les ont libérés, ou savait-on ce qui s'y passait ?
Qui savait quoi ? Alors d'abord, ça dépend du niveau où on se trouve. Si on se trouve au niveau politique, d'une part, d'un État, comme l'État français par exemple, l'État américain ou l'État britannique, ou le Vatican, si on raisonne au niveau des services intermédiaires, un préfet par exemple, Maurice Papon pour donner un exemple, ou du niveau des gens du commun du peuple, comme vous et moi. Donc il y a plusieurs niveaux de connaissances. Si on raisonne au niveau des États, en ce qui concerne l'extermination, les Allemands l'ont voulu secrète et ils ont détruit toutes les installations à la fin de la guerre. Donc les Allemands ont essayé donc de cacher ce crime énorme donc par tous les moyens. Mais il y a d'abord des gens qui se sont évadés des camps d'extermination. Pas beaucoup, c'est vrai, d'Auschwitz-Birkenau, très peu. Il y en a quelques-uns qui se sont évadés, je crois, il me semble que c'est Treblinka, j'en suis pas très sûr, mais il me semble bien. Sobibor, pardon, qui se sont évadés. Bon, on a eu des évadés qui ont raconté. Le problème qui s'est posé, c'est que le témoignage était tellement affreux, tellement énorme, qu'il faut se placer dans la perspective de ce qui s'était passé en 14-18, à savoir qu'on avait tellement raconté de choses sur l'ennemi, qu'il soit allemand pour les Français ou Français du côté allemand, qui se sont révélées totalement fausses, qu'il y a eu une certaine méfiance qui s'est créée à partir de 40 sur les informations que l'on recevait. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Ça, c'est un premier problème. La deuxième chose, c'est que les éléments aussi, les gens d'Auschwitz-Birkenau, pour certains d'entre eux, ont pu lier des connaissances, des relations avec la résistance polonaise qui était tout autour, et par conséquent faire sortir un certain nombre d'informations. Ce qui fait que la résistance polonaise a pu très rapidement alerter les Polonais exilés en Angleterre qui ont alerté Churchill. C'était donc très rapidement, les autorités politiques anglaises et américaines ont été mises au courant. Le Congrès juif mondial a pu collecter lui aussi un certain nombre d'informations qu'il a transmises à Roosevelt et qu'il a transmises aussi aux Anglais. C'était aussi l'autre aspect. Et puis enfin, on a un autre aspect qui est très important, à savoir que les Einsatzgruppen, c'est-à-dire les troupes qui étaient chargées de l'exécution des Juifs, en Russie occidentale et en Ukraine, eh bien, communiquaient entre eux par radio. Or, les Alliés, très rapidement, ont pu intercepter les informations radio et les décrypter de manière très correcte. Donc, on avait un faisceau d'informations qui allait dans le même sens. On sait aujourd'hui, par-dessus le marché, que les services de contre-espionnage allemands qui étaient en Suisse faisaient quelquefois, les agents étaient doubles, triples, quadruples, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et ont donc fourni des informations à leurs homologues, donc britanniques. Je crois que c'est le cas d'un nommé Tummel, qui appartenait à l'Abwehr en Suisse, qui a donné régulièrement des informations qu'il lui possédait, donc de ses propres services. Ce qui fait que, très, très immédiatement, les États ont été informés de l'extermination. Le Vatican savait aussi. Mais pour d'autres raisons, comme Pie XII était fondamentalement anticommuniste, il trouvait que plus les communistes allaient se faire démolir par les nazis, moins ça ferait d'ennemis certainement au Vatican. Alors, il y a cela, et puis il voulait aussi peut-être protéger un certain nombre de gens. Il ne faut pas perdre de vue non plus que nous, nous vivons les choses avec le recul du temps. Ça fait 65 ans que ça s'est passé, et qu'il nous est facile de juger. Mais sur le terrain, sur place, ça n'était pas aussi simple que cela. Donc, voilà le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est ce que j'appellerais le niveau intermédiaire. Je vais prendre le cas de Fernand de Brinon. Fernand de Brinon était l'ambassadeur de Pétain à Paris. C'était donc un homme politique de haut rang quand même. Il a été invité par le gouverneur général de Pologne à Cracovie, qui était Franck. Ce personnage avait l'habitude de se vanter de ses résultats en matière d'extermination dans les camps, dans les camps d'extermination. J'ai du mal à penser, moi, que de Brinon, ayant été invité par ce personnage à Cracovie, à aucun moment il n'en ait été question, surtout quand on connaît la propension de Franck à se vanter de ses résultats. Donc de Brinon, à mon avis, a été au courant. Il ne pouvait pas en être autrement. Alors maintenant, est-ce que des gens comme Maurice Papon pouvaient-ils être au courant? La réponse, à mon avis, est oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, contrairement à une idée très répandue, la SNCF a affrété des trains. Alors, je ne vais pas entrer dans la polémique. Est-ce que c'est bon? Vous savez que la SNCF a été condamnée récemment, mais il y a appel. Enfin bref, il y a toute une histoire derrière cela. La SNCF a affrété des trains qui sont partis de province pour aller à Auschwitz-Birkenau. Il y en a deux en particulier, le convoi numéro 8 qui est parti d'Angers. Donc, les raflés du 16 juillet 1942 du Mans, d'Angers et de Nantes, parce qu'on oublie toujours que la rafle du Veldiv, ce qu'on appelle la rafle du Veldiv pour Paris, eh bien, ces rafles ont eu lieu aussi en province, et chez nous en particulier. Eh bien, ces juifs sont partis d'Angers. Le train s'est arrêté à Drancy, mais n'a pas été déchargé, et il est parti à Auschwitz-Birkenau directement. Donc, si vous voulez, et on a un deuxième convoi qui est parti de Lyon, de la même manière. Donc, automatiquement, les services administratifs concernés savent, en principe, la destination de leur convoi. C'est un minimum, ou alors ils sont incompétents. Or, Monsieur Papon n'a jamais été accusé d'incompétence, à ma connaissance. Donc, par conséquent, ils avaient ça. Il y avait un deuxième élément d'information, à savoir qu'un secrétaire général de préfecture recevait les journaux clandestins. Or, les journaux clandestins, très rapidement, eh bien, ont évoqué les massacres qui avaient lieu à l'Est. En particulier, le journal Défense de la France, avec photo à l'appui, s'il vous plaît. Hein, en 1942, le présente. Vous avez des tracts communistes de décembre 41 que j'ai trouvé moi aux archives départementales qui font état de massacres à l'Est, de juifs, de communistes, etc. Donc les massacres étaient parfaitement connus. Est-ce, on ne connaissait peut-être pas le fonctionnement exact de l'extermination, mais que des massacres avaient lieu à l'Est, ça oui, on le savait. Et on savait très bien que lorsque des juifs prenaient le train, ils étaient massacrés. Donc ça, c'est ce deuxième niveau. Le troisième niveau maintenant, c'est les gens du peuple, vous et moi. Là, c'est effectivement, je ne pense pas qu'ils le savaient, sauf ceux qui lisaient les journaux clandestins ou ceux qui avaient lu Paris Match en février 1940. Parce que Paris Match montre des photos et donne le règlement intérieur du camp de Dachau. Je pense, moi, que si la majorité de la population ne le savait peut-être pas, beaucoup de gens au niveau administratif et au niveau politique le savaient. Mais la question à ce moment-là qu'on se pose, c'est pourquoi n'ont-ils rien fait? Délivrer les Juifs à Auschwitz-Birkenau, c'était pas possible avec un commando, il faut bien s'en rendre compte. Bombarder le camp, c'était déplacer le problème. Bombarder les voies de communication, c'était arrêter effectivement les convois qui auraient probablement, l'extermination aurait lieu sans doute ailleurs, peut-être moindre, mais elle aurait lieu ailleurs, comme ça se fera, à partir de 1945 à Mauthausen. Et d'autre part, les bombardiers avaient-ils les moyens d'action sur Birkenau? À partir de 44, oui, c'est certain, mais jusqu'avant, non. Et d'autre part, dernière chose, enfin, ils ont fait une estimation, aussi bien Churchill que Roosevelt, ils ont pensé que si on terminait la guerre le plus vite possible, on finirait automatiquement l'extermination. Donc l'extermination cesserait par la fin de la guerre.
Cette série d'émissions a été réalisée par les lycéens de première L et terminale L du lycée Paul Scarron de Ciel-Guillaume dans le cadre de l'option radio et en collaboration avec les enseignants de lettres et d'histoire.
Nous remercions pour leur initiative et leur soutien le mémorial de la Shoah à Paris, principalement Alban Perrin, ainsi que la région des Pays de la Loire dans le cadre de son programme sur l'éducation à la tolérance et à la paix.
Nos remerciements à Charles Zelti, Lucien Pellois, Charlotte Leprovost, Myriam Soussan et toutes les personnes qui nous ont aidés dans cette réalisation. Une reconnaissance particulière à Jacques Chénier pour l'apport de son expertise historique. Cette série radiophonique est une production fréquencillée 97.9 en pays de Haute-Sarthe.